Chers auditeurs, bonjour, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission Le Monde de la Philosophie. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un invité de marque pour nous parler de philosophie politique. C'est peut-être un domaine de la philosophie que j'aborde moins dans cette émission, qui est moins une de mes spécialités, mais je suis très heureux de vous en parler aujourd'hui. J'ai le bonheur d'accueillir Antoine Dress, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à vous. Vous êtes avec nous par visio. Malheureusement, vous habitez un petit peu loin, à Liège, en Belgique. Vous n'avez pas pu vous rendre à Paris, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais donc, merci d'être avec nous par moyen numérique interposé. Nous allons parler aujourd'hui avec vous de quelques philosophes contemporains qui ont une signification importante pour aujourd'hui, qui peuvent nous aider à penser aujourd'hui la politique, la philosophie politique. On va voir de bords différents, de styles différents. Je vous présente rapidement Antoine Dress. Vous êtes plus connu peut-être sous votre nom de youtubeur, de Egonon. Vous faites donc depuis 5 ans un certain nombre de vidéos sur YouTube, des vidéos de philosophie politique très fouillées, très spécialisées, donc des vidéos d'une heure, voire un peu plus, tout à fait intéressantes. Vous avez aussi, je le note, une chronique de philosophie politique dans la revue Éléments. Vous travaillez aussi pour l'Institut Iliade, donc un certain nombre d'engagements politiques, philosophico-politiques, si je puis dire. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous partager un certain nombre de vos avis, un certain nombre de vos connaissances en philosophie politique, pour nous introduire dans l'œuvre de certains philosophes politiques importants de notre époque, connus, parfois moins connus, parfois connus, mais en fait pas si bien connus, parce que en fait profond et complexe. Merci donc beaucoup d'être avec nous. Peut-être d'abord une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que vous pourriez nous retracer dans les grandes lignes votre itinéraire personnel, politique, philosophique? Comment est-ce que vous en êtes venu à fonder cette chaîne Egonon sur YouTube, à vous intéresser à la philosophie politique? Qu'est-ce qui vous a mené à entreprendre toute cette aventure, à la fois éditoriale, de vidéos, de chroniques? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à être le penseur politique que vous êtes?
Oh, eh bien, c'est vraiment une série, un concours de circonstances, à bien des égards. Déjà, même, on m'aurait dit... un mois avant que je ne sorte ma première vidéo sur YouTube, que j'allais faire des vidéos sur YouTube, je ne l'aurais pas cru. C'était vraiment quelque chose qui ne m'avait jamais traversé l'esprit avant. Donc, j'expliquerai rapidement comment j'ai eu cette idée finalement. La philosophie, je n'y étais pas prédestiné dès le début, si je puis dire. Mais toutefois, là, je dirais que le monde des livres a fait partie de mon enfance. Il y a toujours eu beaucoup de livres à la maison, dans chaque pièce. Ma mère a fait des études de lettres anciennes. Elle me parlait de la mythologie grecque quand j'étais enfant. Donc j'étais vraiment baigné dans ce bain culturel. Elle m'a initié au grec très tôt, parce qu'il n'y avait plus de cours de grec à l'école, même si j'ai fait du latin. Et donc je m'intéressais à la littérature. Je me suis intéressé à la littérature assez tôt, mais la philosophie, je dirais qu'il y a eu deux événements. Il y a eu la rencontre tout à fait fortuite d'un livre dans la bibliothèque de mon grand-père, qui est Le Prince de Machiavel. Ce nom me disait vaguement quelque chose, parce que je connaissais l'adjectif machiavélique, évidemment, qui sentait un peu le soufre. Et donc j'ai lu ce livre probablement vers mes 14 ou 15 ans. Je ne prétendrai pas avoir tout compris, évidemment, dès ma première lecture, mais j'avais déjà été fasciné par une certaine manière qu'avait cet auteur, qu'avait Machiavel, de parler de la politique, de parler de certains événements de son temps. En particulier, ce décalage complet avec toute forme de moralisme ou de sentiment moral. C'est-à-dire que Machiavel décrivait des actions politiques de certaines grandes figures de son temps, César Borgia, évidemment, Sforza, etc. Et les décrivait parfois en train de mentir, en train de trahir, en faisant quelque chose de parfaitement honteux, etc. Et Machiavel décrivait tout cela avec une plume tout à fait chirurgicale, sans donner une petite conclusion morale à la fin de l'histoire, simplement pour nous montrer comment ça fonctionne, comment fonctionne la chose politique. Donc ça m'avait un peu interpellé. Et en plus de cela, un de mes oncles avait fait des études de philosophie, et un jour qu'il était à la maison, j'écoute la conversation des plus grands, hein, des plus âgés, et j'entends mon oncle parler de politique sous un angle qui me paraissait tout à fait inhabituel, avec un langage très philosophique. Il était très influencé par Hegel, et alors il employait des mots que je ne comprenais pas. Mais j'ai été littéralement fasciné par sa manière de parler. J'ai souhaité en savoir plus, et en fait, je lui ai demandé de m'initier à cette discipline qu'est la philosophie. Et de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Il m'a un peu parlé de la philosophie de Platon, d'Aristote, de Hegel, etc. Et ça a été une influence très, très importante pour moi. Et donc, de mon côté, après, j'ai commencé à lire de plus en plus. Je suis un boulimique de lecture et un acheteur compulsif de livres. Et donc, quand j'ai fait mes études de philosophie ensuite à Bruxelles, j'ai quitté Liège pour aller à Bruxelles. Il y a encore des bouquinistes à Bruxelles, et une bonne partie du peu d'argent que j'avais à l'époque passait entièrement dans les livres d'occasion. Et c'est ainsi que j'ai découvert énormément d'auteurs oubliés, peu connus, etc., que je lisais en parallèle de mes études. Donc je me suis formé ainsi, j'ai découvert énormément de noms que j'essaie maintenant de faire découvrir sur ma propre chaîne YouTube. Et alors, pourquoi ai-je fait cette chaîne YouTube? Bien précisément parce que je regrettais que des auteurs que j'appréciais, que des concepts que j'aurais aimé voir mobilisés dans le débat public, dans l'espace militant, politique, etc., n'étaient précisément pas mobilisés. Et un jour, je m'en plaignais à un de mes amis, et en fait, il m'a dit: mais si tu t'en plains, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Et ça m'a piqué dans mon orgueil, et j'ai fait une première vidéo sur l'archéofuturisme de Guillaume Fay. Première vidéo dont la qualité technique n'est sans doute pas la meilleure sur ma chaîne, évidemment. L'exercice m'a bien plu, j'en ai fait une deuxième sur Carl Schmitt, distinction ami-ennemi, et puis de fil en aiguille, voilà que 5 ans plus tard, je suis encore là.
Merci pour ce petit récit. Peut-être une question sur le nom de votre chaîne, Egonon. Qu'est-ce qu'il signifie?
Ça vient d'une citation, d'une locution latine, Etiam si omnes ego non, même si tous, moi pas, qui est en fait la devise de la famille des Clermont-Tonnerre. Alors, on lui prête toutes sortes d'origines. La plus fréquente, c'est on dit qu'elle serait inspirée de la réponse de Saint Pierre au Christ: même si tous te renient, moi je ne te renierai pas. C'est fort possible. Mais en fait, si je l'ai choisi, enfin, j'aimais bien déjà cette citation que j'avais découverte par Gustave Thibon dans une de ses conférences. Mais ce qui m'a conduit à la choisir, c'est qu'au même moment, je lisais un texte de Solzhenitsyn, dont j'ai également parlé au tout début de ma chaîne, qui s'appelait Jit Nupalji, donc Vivre sans mentir ou Vivre sans mensonge, qui est un petit texte qu'il avait écrit ju juste avant d'être envoyé en exil hors de Russie. Et le propos de Solzhenitsyn était le suivant: même si le mensonge recouvre tout, même si on ne peut rien faire contre le mensonge institutionnalisé de cet État tout-puissant, de ce conformisme idéologique ambiant, qu'au moins le mensonge ne passe pas par moi. C'est-à-dire que nous n'avons peut-être pas forcément le pouvoir individuel de renverser la situation, de faire triompher la vérité, mais au moins nous avons le pouvoir de ne pas collaborer au mensonge. Donc, moi pas, moi je ne collaborerai pas au mensonge. Et donc la rencontre de Solzhenitsyn et la mémoire de cette locution latine ont guidé mon choix. Et alors, très simplement aussi, j'étais encore à l'université quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'était ma dernière année de master. Je ne souhaitais pas donner immédiatement mon prénom et mon nom de famille, car ça aurait pu me causer quelques soucis, même si j'ai accepté de montrer mon visage. Et donc je cherchais, c'était même pas spécialement un pseudonyme, je n'avais pas dans l'idée qu'on m'appelle Egonon. En fait, par la force des choses, on m'a appelé Egonon parce que les gens n'avaient pas d'autre nom à m'accoler. Et depuis, ben maintenant, il est fréquent qu'on m'appelle ainsi. Et voilà, c'est ça qui a décidé, qui a motivé mon choix.
Alors, nous allons en venir maintenant au fond des choses. Donc, nous allons parcourir voilà, quelques grandes figures de philosophie politique qui me semblent aujourd'hui intéressantes, importantes à divers titres. Donc, je vous propose un petit parcours en commençant par la révolution conservatrice allemande, peut-être Junger en particulier, Carl Schmitt, Curtis Yarvin, voilà, quelque chose de beaucoup plus contemporain, et puis Jürgen Habermas, qui est d'un autre horizon, évidemment. Voilà quelques figures, un choix relativement arbitraire, évidemment. On ne peut pas tout traiter en moins d'une heure, mais voilà, je vous propose de parcourir un petit peu ces figures, chers auditeurs. Alors peut-être d'abord un mot sur un courant qui vous inspire particulièrement, donc c'est ce qu'on a appelé la révolution conservatrice allemande, donc à l'époque de la République de Weimar, avec des figures voilà, connues, Spengler, Junger. Selon vous, quelle est la particularité de ces penseurs et quel est le cœur, en quelque sorte, le cœur nucléaire de leur pensée? Est-ce que l'étiquette même, révolution conservatrice allemande, convient tout à fait? Voilà. Comment est-ce que vous pourriez nous introduire, Antoine Dresd, à ces penseurs-là?
Oui, c'est vraiment un très vaste courant. J'ai eu beaucoup d'influence intellectuelle. J'aurais du mal à dire que je n'ai eu... Thomas d'Aquin disait « je crains l'homme d'un seul livre ». J'aurais du mal à dire que j'ai un seul auteur en particulier. Voilà, je suis nietzschéen, schmittien, marxiste, peu importe. J'ai beaucoup d'influence. Mais un des courants qui m'a le plus marqué, c'est effectivement ce que Armin Mohler, qui était le secrétaire de Ernst Jünger, a appelé la révolution conservatrice allemande, qui regroupe tous ces penseurs. Et ce qui m'a très tôt fasciné là-derrière, déjà, c'est ce syntagme en apparence contradictoire. Comment peut-on être révolutionnaire et conservateur? L'idée derrière est même révolutionnaire car conservateur. C'est-à-dire que tous ces auteurs avaient le sentiment que l'ordre occidental, que la modernité occidentale égalitaire, universaliste, individualiste, allait devenir de plus en plus stérile et que il fallait retremper le monde dans une nouvelle batterie de valeurs, si je puis dire, mais que le simple retour au monde ancien était impossible. C'est-à-dire que la différence entre la révolution conservatrice, donc ces penseurs de l'entre-deux-guerres et, mettons, la contre-révolution, par exemple, des figures qui me sont très chères également, comme Joseph de Maistre, Louis de Bonald, etc., c'est que ces dernières étaient des restaurateurs. Ils ont vécu la Révolution française et critiquaient les dérives de l'égalitarisme, du sectarisme des Lumières, etc., et étaient, pour la plupart, des partisans d'un retour à l'Ancien Régime. Or, au XXe siècle, une partie des conservateurs européens, des gens qui défendent ces mœurs-là, comprennent que le retour en arrière n'est plus possible, que nous vivons à une autre époque, véritablement. Pour Armin Mohler, donc, qui est un peu le grand exégète de ce courant, on pourrait presque y voir comme un nouvel âge axial, c'est-à-dire qu'il y a eu l'âge axial de Karl Jaspers, qui a parlé de la naissance de toutes ces religions du salut à une certaine période de l'humanité, et que, en fait, après la révolution industrielle et la mutation anthropologique que nous vivons encore aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis l'âge industriel jusqu'à maintenant, le tempo de l'histoire ne cesse d'accélérer, c'est ce que disait Spengler, c'est-à-dire que vous regardez, si vous inscrivez toute l'histoire de l'humanité, même qui comprend toute la préhistoire de l'humanité, des centaines de milliers d'années jusqu'à nos jours, sur une grande ligne du temps, et que vous mettez des périodes historiques, vous voyez que les périodes historiques sont de plus en plus courtes. Il y a une accélération objective de l'histoire humaine, et un siècle, le 19e siècle, en termes de bouleversements technologiques, anthropologiques et tout ce que vous voulez, en valent des milliers auparavant. Et donc l'idée de l'intuition de certains de ces auteurs, qui pour la plupart s'inscrivent dans une veine nietzschéenne, c'est que Junger le dit presque textuellement dans un livre qui s'appelle Le Travailleur. Nous vivons un moment aussi important pour l'humanité que l'âge néolithique, que la révolution néolithique, où on est passé des chasseurs-cueilleurs aux sédentaires, les agriculteurs et les éleveurs d'animaux. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution anthropologique à l'époque et nous sommes en train de vivre une révolution similaire. On a maîtrisé la matière vivante, les plantes, l'agriculture et les animaux, et maintenant nous maîtrisons de plus en plus l'énergie. Nous sommes de plus en plus en situation de domination totale sur la Terre. Hein. C'est un des grands thèmes de Heidegger, par exemple. Et l'humanité, contrairement au siècle qui l'avait précédé, va devenir de plus en plus en charge de son propre futur. Et donc, bonne partie de ces penseurs sont face à cette révolution, à ce bouleversement, et pensent chacun dans des directions qui sont pas les mêmes, mais dans des directions pensent l'avenir de la civilisation européenne, l'avenir de l'Occident, l'avenir du monde moderne, etc. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est vraiment ce laboratoire extrêmement foisonnant dont on ne soupçonne pas toujours la richesse aujourd'hui. Enfin voilà, j'ai peur de m'égarer, je ne sais plus très bien quelle était la question de départ, mais voilà grosso modo donc le point de départ de la révolution conservatrice allemande. Et Armin Mohler a proposé toute une cartographie de ce courant. Alors, parce qu'il y a une dimension parfois très politique chez eux, dans cette galaxie, il parlait des nationaux révolutionnaires, auquel appartenaient des gens comme les frères Junger au départ, qui avaient vécu la Première Guerre mondiale, qui pensaient à la mobilisation totale du monde, etc. Il y a les jeunes conservateurs, il y a les Völkisch, etc. Et puis il y a des figures un peu plus englobantes, qu'il est difficile de catégoriser, des gens comme Oswald Spengler, comme Carl Schmitt, comme Junger. Ernst Junger lui-même a beaucoup évolué. Et ce sont des auteurs que j'essaye de faire découvrir sur ma chaîne.
Et peut-être une précision, vous montrez bien donc qu'il constate que finalement c'est l'époque elle-même qui est révolutionnaire, qui est une révolution permanente. Mais quel est du coup leur versant conservateur? Quel sens a leur conservatisme? Vous avez bien montré qu'il ne s'agissait pas d'une restauration, d'un retour à un âge antérieur, puisque ce n'est plus possible. Quel sens, dans ce cas-là, prend leur conservatisme?
Eh bien, un auteur comme Arthur Möller van den Brugh, qui appartient au courant jeune conservateur, disait que justement, le conservateur ne cherche pas à conserver des formes politiques antérieures, il cherche à conserver des valeurs éternelles. C'est-à-dire qu'il y a une vision du monde aristocratique, héroïque, qui peut prendre des formes diverses. Et c'est pour ça qu'ils sont révolutionnaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à conserver dans les formes concrètes existantes. Et c'est justement leur défense d'une certaine conception de l'homme qui les pousse à être révolutionnaires.
Est-ce qu'il y a aussi chez eux une approche du phénomène technique? Alors on pense évidemment Heidegger, qui d'une certaine manière se rattache à ce courant-là. Mais au fond, comment est-ce qu'il se situe par rapport à l'explosion technique? Vous en avez parlé du 19e siècle et puis du 20e siècle aussi sous leurs yeux. Un certain nombre ont participé à la guerre de 14, qui est une guerre extrêmement industrielle, extrêmement technique. Quelle pensée est-ce qu'ils ont de ce phénomène technique contemporain? Qui là aussi est extrêmement inédit. Peut-être le seul parallèle, en effet, serait la révolution néolithique. Mais comment est-ce qu'il se situe par rapport à ce bouleversement du monde sous l'impulsion des nouvelles techniques?
Alors, ils n'apportent pas tous la même réponse. Hein. Oswald Spengler, Junger, Heidegger, pour ne prendre que les plus grands noms, ne disent pas exactement la même chose. Un des plus emblématiques, c'est sans doute Ernst Junger. Ernst Junger, qui a pensé la technique d'abord à partir de l'expérience de la Première Guerre mondiale. Il écrit son grand livre qui s'appelle « Orage d'acier », qui révèle une nouvelle expérience du front, en fait. C'est-à-dire que pour Junger, la guerre de 14 n'était pas qu'une guerre parmi d'autres. Ce n'était pas un événement politique anodin, c'était une véritable expérience métaphysique. C'est-à-dire que jusqu'à la Première Guerre mondiale, les décennies qui ont précédé, le monde occidental vivait un peu dans cette illusion du progrès mécanique. On irait spontanément vers toujours plus de progrès, etc. Ça me fera beaucoup si on compare, parce qu'on pourrait dire qu'il y a encore une croyance dans le progrès aujourd'hui, mais par rapport à ce que c'était au début du XXe siècle, c'est risible. Vous pouvez encore trouver des rues de Bruxelles qui portent le nom de rue du progrès, où il y avait des cafés du progrès, etc. à l'époque, alors qu'aujourd'hui, même le camp progressiste n'est finalement pas très optimiste. C'est-à-dire que même à gauche, des thèmes sur la catastrophe écologique sont prédominantes, l'immigration climatique, etc. Enfin, je pense qu'il y a relativement peu de monde aujourd'hui qui sont convaincus que demain sera meilleur qu'hier ou meilleur qu'aujourd'hui. Il y a plutôt une espèce de pessimisme qui s'est installé dans notre époque, mais ce n'était pas du tout le cas au début du XXe siècle. Et pour Ernst Jünger, justement, la Grande Guerre a arraché l'homme au confort bourgeois, c'est-à-dire à la sécurité, aux petites illusions romantiques, aux illusions humanitaires, etc. Et a mis l'homme moderne face à ce qu'il appelait l'élémentaire, les puissances élémentaires, la peur, la douleur, le courage, la mort, l'intensité, etc. Et ça, c'est un effet de la technique. C'est-à-dire que la technique, loin d'adoucir, d'apaiser la vie, etc., Jünger montre, a vu avec la Première Guerre mondiale, que la technique pouvait avoir un effet d'une mobilisation totale, qu'elle pouvait avoir un effet purement déshumanisant et qu'elle pouvait devenir complètement incontrôlable. Et ça, ce sera aussi la logique de Heidegger qui parlera de la technique comme d'un processus sans sujet. C'est-à-dire que je ne sais plus où j'avais lu ça, c'est une réflexion un peu ironique, peut-être un peu provocatrice. On dit que l'homme est allé sur la Lune, et donc par son génie technique, l'homme a réussi à aller sur la Lune, mais n'est-ce pas la technique qui est allée sur la Lune en utilisant l'avatar humain? C'est-à-dire que la technique est devenue tellement puissante, elle se développe presque de façon autonome, puisqu'en fait, si les Américains n'avaient pas été sur la Lune, l'URSS aurait peut-être été à sa place. Il y a une course à la technique qui fait qu'on ne peut plus arrêter la machine. Et je pense que c'est ça un des points de départ de la réflexion des révolutionnaires conservateurs. Bon, je pourrais dire de manière un peu bateau, comment maîtriser la technique. Je pense qu'Heidegger lui-même ne serait pas d'accord avec cette formulation. Mais l'homme est à nouveau placé face à son destin. C'est-à-dire que la technique n'est plus juste un simple instrument neutre qui nous aide à améliorer notre vie. Elle est maintenant ce qui détermine et ce qui bouleverse entièrement notre mode d'existence.
Donc il y a comme finalement une sorte de retour du tragique chez ces penseurs de la révolution conservatrice allemande.
Totalement.
Qui voient que finalement le cours des choses n'est pas si heureux qu'ils espéraient. Venons-en peut-être maintenant à un auteur dont vous êtes vraiment spécialiste, donc Carl Schmitt. Je pense donc Carl Schmitt, donc né en 1888, mort en 1985. Vous avez récemment, Antoine Dress, réédité un des premiers livres importants de Carl Schmitt, Romantisme politique. On va parcourir ensemble quelques-unes des principales œuvres de Carl Schmitt. Romantisme politique, finalement, qu'est-ce que Carl Schmitt y dit? Quelle est la critique du romantisme en politique qu'il mène dans ce livre-là?
Oui. Alors Carl Schmitt, j'ai fait une nouvelle traduction du livre de Carl Schmitt, Romantisme politique. Il y avait eu une première traduction française au début du XXe siècle, mais sans vouloir critiquer mon prédécesseur, elle était très très imparfaite pour la simple raison qu'en fait le livre comporte en gros trois grandes parties, il en manquait une. Et le traducteur, bon, c'était un peu l'époque, maintenant on préfère plus de précision, mais à l'époque, le traducteur et l'éditeur avaient certainement décidé en fait, avait décidé de couper toutes les références à la littérature allemande que faisait Carl Schmitt et qui était probablement inconnue au lectorat français. Ce qui produit un objet totalement mutilé et en fait très différent de leur original. Parce qu'effectivement, Carl Schmitt mobilise une connaissance très importante de la littérature allemande de son époque. Donc là, dans ce qui a été décidé avec l'éditeur, la maison d'édition Crisis, c'est au contraire de faire plutôt des notes de bas de page pour expliquer quels sont les auteurs auxquels fait référence Carl Schmitt. Voilà, je ferme la parenthèse. Carl Schmitt, alors, si vous me permettez, j'ouvre à nouveau une autre parenthèse. Carl Schmitt est intégré à la révolution conservatrice allemande. Möller lui-même l'y avait intégré. Néanmoins, on pourrait quand même en débattre, parce que les auteurs de la révolution conservatrice allemande, pour la plupart, pour l'immense majorité, sont influencés par Nietzsche. Ils s'inscrivent dans la filiation nietzschéenne. Ce n'est pas du tout le cas de Carl Schmitt. D'ailleurs, Carl Schmitt parle très très peu de Nietzsche et il cite Nietzsche à une occurrence dans Romantisme politique, aux côtés de Byron et de Baudelaire, si je me souviens bien, comme les trois esprits malades de la modernité. Donc il ne se réclame pas du tout de Nietzsche. Au contraire, Carl Schmitt est plutôt un. Lui-même disait qu'il était romain. Il était romain par la philosophie et par la pensée du droit. Et effectivement, ses grandes inspirations, ce sont la pensée antique, c'est Machiavel, c'est Thomas Hobbes, c'est Jean Bodin, ce sont les contre-révolutionnaires français, Joseph de Maistre, Donoso Cortés, Louis de Bonald, etc., bien plus que la pensée germanique allemande. Et donc, il y a une grande pensée de l'État, de la décision politique, etc., chez Schmitt, qui est juriste et philosophe. On le connaît principalement pour des grandes idées comme la distinction de l'ami et de l'ennemi. On y reviendra très certainement ensuite. Mais effectivement, au début de sa carrière littéraire, il a écrit un livre un peu surprenant. On ne connaît que cette réputation, ce qui est Romantisme politique. Ça paraît un livre dont la préoccupation, dont le sujet central est très éloigné de nos préoccupations actuelles. Et pourtant, je ne trouve pas. Je trouve qu'il est même peut-être plus actuel que jamais. Schmitt, à l'époque, se concentre sur un objet qui était encore objet de polémique, à savoir le romantisme. Le romantisme en littérature, on se souvient de la bataille d'Hernani avec Victor Hugo, etc., les classiques contre les modernes, Stendhal avec Racine, Shakespeare, etc. Le romantisme a fait couler beaucoup d'encre entre les défenseurs d'un certain esprit classique en France et les défenseurs de l'art romantique, l'art sentimental, l'art individualiste, subjectiviste, etc. Et en France et en Allemagne, le romantisme n'avait pas la même presse, c'est-à-dire que, surtout à droite. C'est-à-dire que dans le monde intellectuel de droite, dominé par Charles Maurras, l'Action française, etc., le romantisme était vu comme le pur produit du rousseauisme, de la croyance en la bonté de l'être humain. Et c'était d'une sorte de naïveté inconvenante, un esprit dissolvant qu'il fallait combattre à tout prix. Donc la droite française. Intellectuelle dominante de l'époque maurrassienne, était pour un retour à l'ordre classique. L'ordre classique à la fois dans la littérature et dans l'ordre politique, l'un étant lié à l'autre. C'est-à-dire que, en gros, si vous appréciez Boileau, vous devriez apprécier la monarchie française. Et si vous préférez Lamartine, eh bien vous préférez l'anarchie républicaine, etc. Carl Schmitt était un grand lecteur, un francophone, un francophile, et il était lecteur de l'Action française. Et en Allemagne, à l'inverse, c'est l'opinion contraire qui prévalait, c'est-à-dire que la droite allemande valorisait le romantisme, en particulier le romantisme allemand, en lequel elle voyait la réaction organiciste, traditionnaliste, aux Lumières. La pensée française des Lumières, universaliste, rationaliste, desséchante, etc. Et par rapport à cela, il y avait le retour à l'esprit. Du peuple, le Volksgeist, etc. Le romantisme avait redécouvert le génie de la langue allemande, etc. Et donc, on pourrait se dire que Carl Schmitt, au début du XXe siècle, homme de droite allemand, allait naturellement de ce côté-là. Et en fait, non. Il est beaucoup plus proche de la position française, mais il va aller beaucoup plus loin. Pour lui, on ne peut pas définir le romantisme uniquement comme la croyance en la bonté naturelle de l'homme. Il peut y avoir des cas de ce genre, mais ça ne comprend pas entièrement la définition. Et bon, je vais directement aller à la conclusion. Pour Carl Schmitt, le romantisme est bien plutôt ce qu'il appelle un occasionnalisme subjectivé. Alors, un mot qui peut faire peur nos auditeurs. L'occasionnalisme, il fait référence à la philosophie de Nicolas Malebranche. Nicolas Malebranche, qui, au XVIIe siècle, s'était penché sur le problème de la liaison entre l'esprit et le corps. C'est-à-dire comment est-ce que on peut connecter les deux, l'âme et la matière, etc. Et l'idée de Malebranche, c'était en fait que la véritable cause de tous les mouvements du monde, c'était Dieu. Il n'y a de cause véritable que Dieu. Tout ce qu'on appelle dans le jargon aristotélicien les causes secondes ne sont pas des vraies causes. C'est-à-dire que si je frappe une boule de billard avec la queue, on pourrait dire que je cause le mouvement de la bille. Et pour Malebranche, en vérité, c'est impropre, car la seule véritable cause qui fait bouger le monde, c'est Dieu. Et le mouvement de mon bras n'est que l'occasion qui permet à Dieu d'exprimer sa puissance. Donc bon, une théorie qui peut nous paraître très farfelue, très étrange aujourd'hui, mais il y avait quand même dans la pensée de Malebranche un référent qui tient la solidité du monde, c'est Dieu, bien évidemment. Dieu est un absolu, et donc, même si tout n'est qu'occasion dans le monde, mais il n'est qu'occasion d'une puissance inamovible qu'est la divinité. Or, Schmitt, évidemment, là je balance la conclusion un peu rapidement, mais lui fait toute une enquête dans son livre, pour nous le montrer maints exemples à la clé, que les romantiques sont des occasionnalistes subjectivés. C'est-à-dire qu'en fait, tout dans le monde n'est qu'occasion à l'expression de leur moi. C'est le moi individuel, moderne, qui a remplacé ce référent absolu qu'est Dieu. Et donc, la plupart des romantiques allemands, pour Schmitt, même quand, comme Friedrich Schlegel ou Adam Müller défendent des opinions conservatrices, en vérité, ne défendent ces opinions que parce qu'ils sont l'occasion d'un épanchement individuel, que parce que cela est une forme de chatouillement intérieur, si je puis dire. Ils auraient pu défendre des opinions totalement inverses. Et Schmitt veut mettre en garde ses lecteurs et probablement la droite allemande de l'époque face à ce comportement romantique occasionnaliste. La politique se fonde sur des règles qui sont bien plus objectives et ce n'est pas simplement la beauté d'une idée qui fait d'un homme un être politique. On peut défendre les plus belles idées du monde, mais si c'est uniquement pour flatter son moi intérieur, on ne fait pas de la politique. On peut faire peut-être une belle œuvre élégiaque, littéraire, etc., mais pas de la politique.
Merci beaucoup. Nous faisons une très courte pause et nous nous retrouvons dans quelques instants.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie dans l'émission Le Monde de la Philosophie. Nous sommes avec Antoine Dresse. Nous réfléchissons à quelques philosophes contemporains importants de notre époque. Nous abordons actuellement Carl Schmitt, grand philosophe allemand du XXe siècle. Nous avons vu sa critique du romantisme, les effets pervers en quelque sorte du romantisme en politique, du subjectivisme qu'est le romantisme en politique. Venons-en à quelque chose de à la fois connu, mais peut-être insuffisamment connu en fait dans toute la profondeur que cette idée recèle, qui est donc la grande idée schmittienne du politique comme distinction entre l'ami et l'ennemi. Antoine Dresse, comment est-ce qu'il faut comprendre cette thèse classique de Carl Schmitt ?
Oui, effectivement, ça fait partie de ces choses qui sont connues, mais souvent connues de travers. On va dire, par exemple, que Carl Schmitt définit la politique comme l'art de désigner l'ennemi. Ce qui donne un peu l'impression que la politique, pour Carl Schmitt, est une grande affaire paranoïaque, qu'il s'agirait de trouver des ennemis partout, y compris sous la table ou derrière les rideaux. Ce n'est pas ce que dit Carl Schmitt. En fait, Carl Schmitt a une ambition, donc c'est une thèse qui a été développée dans un livre de 1927 ou 29, j'ai un doute là maintenant, qui s'appelle « La notion de politique ». Et son ambition dans ce texte était à la fois très humble et très grande. Il cherche non pas à définir ce à quoi devrait ressembler une politique idéale, ils cherchent plutôt à définir le critère qui nous permet de savoir si une question est politique ou non. Parce qu'en fait, très souvent, on accole le mot de politique un peu à tout et n'importe quoi. Ah, ça, c'est une question politique, ça, c'est politique. Mais en fait, qu'est-ce qui nous permet de dire que cette question est vraiment politique ? Et pas plutôt que c'est une question morale, une question économique, une question esthétique, etc. Et alors, pour nous le faire comprendre, il nous donne un exemple historique assez intéressant. Il nous dit que le vocabulaire de la philosophie politique classique a été élaboré globalement au XVIIe siècle, à une époque où la politique était vraiment l'affaire de certains États. Et donc, le langage politique, le mot politique, est presque devenu un consubstantiel avec le concept d'État. Or, cette époque est en train de changer. La politique est en train de se déverser dans d'autres instances que le seul État. Et c'est pour ça que la première phrase de son texte, la notion de politique, c'est le concept d'État présuppose le concept de politique, pour rappeler que le concept de politique est antérieur à celui d'État. Le politique... Je reviens sur ma phrase. Carl Schmitt veut nous montrer qu'il existe plusieurs domaines de l'existence humaine, plusieurs sphères, la sphère morale, la sphère économique, la sphère scientifique, que sais-je encore, que chacun de ces domaines a ses propres distinctions conceptuelles. On peut les déduire assez facilement. Les grands concepts fondateurs de l'ordre moral, c'est le bien et le mal. Dans l'ordre économique, c'est le rentable et non rentable, ou l'utile et nuisible. Dans l'ordre scientifique, ce sont les concepts de vrai et de faux. Dans l'ordre esthétique, c'est le beau et le laid. Et Carl Schmitt se demande si le politique possède des distinctions de cet ordre. Parce que pendant longtemps, pendant une grande partie de la philosophie politique classique, antique par exemple, les penseurs comme Platon ou Aristote auraient tendance à parler de la politique comme d'une branche de la philosophie morale. Il y a la philosophie morale individuelle, et puis il y a la philosophie morale à l'échelle collective. Typiquement, l'ordre politique a pour but d'augmenter la vertu des citoyens. C'est repris dans la politique, la conception politique médiévale avec Thomas d'Aquin, etc. Machiavel est celui, un des premiers à avoir fait sauter cela conceptuellement en nous montrant que le politique a sa propre autonomie et que typiquement un dirigeant politique peut être très bon moralement et s'avérer être un piètre dirigeant politique et même conduire son peuple à la ruine. Ce qui nous montre qu'il y a un hiatus entre la morale et la politique. Et donc l'idée de Schmitt va être que le couple conceptuel qui se trouve au cœur du domaine politique, c'est la distinction ami et ennemi. Pourquoi ? Eh bien, parce que s'il n'y avait pas d'amis et d'ennemis, il n'y aurait pas de politique en vérité. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des menaces qui pèsent, fût-ce de manière hypothétique, sur des collectivités humaines, que les hommes s'organisent politiquement, avec une hiérarchie, en acceptant d'obéir à un chef, etc. C'est le contrat, le cogito de Thomas Hobbes, par exemple, c'est protego ergo obligo. Je protège, donc j'oblige. Si nous n'avions pas cette espèce de contrat tacite entre un gouvernant et un gouverné, on n'abdiquerait pas notre liberté. C'est cet acte fondateur qui fait que les hommes acceptent de participer à une vie politique, de se soumettre à un autre homme, etc. Ce qui ne veut pas dire que l'homme politique, comme je l'ai dit auparavant, doit se chercher des ennemis en permanence. L'idée sous-jacente est bien plutôt que le responsable politique doit avoir constamment à l'esprit que l'ennemi est possible. Il ne peut pas occulter cette réalité. Parce que s'il occulte cette réalité, eh bien, il ne prépare pas son pays à être en mesure de se défendre, etc. Et il peut causer la ruine de son pays. Et alors, quelque chose pour que les auditeurs comprennent, Carl Schmitt donne un exemple que je trouve très, très parlant. pour bien comprendre la différence entre l'ennemi public et l'ennemi privé. Parce que l'ennemi privé est d'ordre moral, l'ennemi public est d'ordre politique. Et il cite cette fameuse phrase du Christ, vous savez, dans l'Évangile, « Aimez vos ennemis ». Une phrase qui cause beaucoup de confusion aujourd'hui. Karl Schmitt nous rappelle que dans les langues anciennes, dans le grec ou dans le latin, il y a au moins deux mots pour le mot « ennemi ». Alors qu'en allemand ou en français, on n'en a qu'un, c'est « ennemi » ou « feind ». Il y a en latin l'ennemi public, « hostis », qui donne « hostile » en français, et « inimicus ». Inimicus, qui est, comme son nom l'indique, le non-ami. En grec, c'est ekthros et polemios. Et l'inimicus, l'ennemi privé, c'est la personne envers qui vous ressentez une profonde antipathie dans l'ordre privé. Vous ne pouvez pas le sentir, comme on dit vulgairement. C'est quelqu'un qui vous a fait un sale coup. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de séduire votre femme, que sais-je encore. Alors que l'hostis, c'est un groupe d'ennemis publics qui menace concrètement votre collectivité. Et donc, si on se réfère au texte de l'Évangile, le Christ ne dit pas « aimez vos ennemis publics »,« diligite hostes vestros », il dit « diligite inimicos vestros », »,« aimez vos ennemis privés ». Ce qui, en soi, peut même rejoindre certaines réflexions nietzschéennes. En fait, le Christ nous enjoint à ne pas éprouver du ressentiment envers un ennemi privé. Il faut être capable de surmonter les sentiments négatifs qu'on peut avoir à l'encontre d'une autre personne, etc. Enfin, on en pense ce qu'on veut, mais cette notion est importante. Et comme le rappelle Karl Schmitt, la phrase du Christ n'incite pas, au contraire, à aider les ennemis à prendre votre ville au nom d'une morale abstraite, humanitariste, etc. Donc il y a une certaine autonomie du politique. C'est ça qui est une des grandes leçons de ce courant que j'appellerais le réalisme politique. C'est l'idée que le politique a sa propre autonomie, qui n'est pas celle de la morale, qui n'est pas celle de l'économie, qui n'est pas celle de l'esthétique. Et c'est le rapport ami-ennemi qui en est le fondement.
Peut-être un saut maintenant un peu dans l'histoire. Après Karl Schmitt, j'aimerais, Antoine Drez, vous interroger sur... un penseur d'un tout autre horizon, mais peut-être que des ponts sont possibles. Il s'agit de Curtis Yarvin. Je signale à nos auditeurs que vous avez réalisé une vidéo sur votre chaîne Egonon sur sa pensée, la pensée dite des lumières sombres ou lumières obscures. Voilà, je signale aussi un entretien donné par Curtis Yarvin dans la revue L'Incorrect en mai dernier. Voilà, Curtis Yarvin, personnage intrigant, peu compris sans doute dans les médias classiques français, parce que très déroutant, qui semble à première vue assez ne pas rentrer dans les cases vraiment politiques auxquelles nous Européens sommes habitués. On lui a collé l'étiquette, et il a même revendiqué l'étiquette de néo-réactionnaire. Curtis Yarvin, donc né en 1973, informaticien, qui devient ensuite blogueur, très influent. Voilà, ses principaux livres sont des recueils de ses chroniques sur son blog. Antoine Drez, finalement, quel est le fond de la pensée politique de Curtis Yarvin? Et qu'est-ce que nous, Européens, qui sommes par bien des aspects assez étrangers à ce type de pensée, que moi en tout cas je trouve très américain, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce penseur néo-réactionnaire assez étonnant, assez inclassable?
Oui, effectivement, avec Curtis Yarvin et la néo-réaction, on entre dans un monde assez différent de celui de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, de Carl Schmitt. Et de toute cette culture classique qui les enrobait quand même. Donc oui, très, très rapidement, effectivement, la néo-réaction ou les lumières sombres dont on a commencé à parler davantage après l'élection de Trump 2, regroupe une galaxie, une nébuleuse même de penseurs un peu différents les uns des autres qui se retrouvent autour d'un petit nombre de principes communs. Et le plus important d'entre eux, c'est Curtis Yarvin, évidemment. Curtis Yarvin, qui vient d'un univers intellectuel complètement différent, la Silicon Valley, c'est un programmateur, un blogueur, etc. Et qui, même d'un point de vue intellectuel, vient aussi d'un autre horizon, car il était d'abord un libertarien. Donc, libertarien, qui est la forme, on va dire, renouvelée, peut-être radicalisée, du libéralisme économique, avec des grandes figures comme Ludwig von Mises ou Murray Rothbard, donc la pensée qu'on appelle celle des Autrichiens, la pensée autrichienne. Curtis Yarvin, si je devais résumer très très simplement, c'est un post-libertarien qui justement revient. C'est un post-libertarien qui renoue avec certaines grandes intuitions du réalisme politique, alors qu'il conserve quand même certains principes libertariens. C'est ça qui créera quand même un hiatus ou ces grandes différences par rapport à Carl Schmitt, par exemple, mais qui est contraint de reconnaître la véracité de certaines thèses machiavéliennes, schmittiennes, certaines thèses de Bertrand Jouvenel, par exemple, d'autres penseurs de cet acabit. Donc, peut-être qu'il faut que je dise en deux mots, enfin deux mots sur le libertarianisme, ou plutôt de son rapport au libertarianisme. Donc, l'idée libertarienne, c'est que enfin, il existe un ordre naturel des relations humaines. Que, au fond, que l'État empêche de s'exprimer. L'État, en fait, le problème, c'est l'État qui, par ses normes, par ses règles, etc., empêche les individus de former un ordre naturel spontané, celui de l'échange, commerçant, mais pas que. Et Curtis Yarvin a été très longtemps influencé par cette pensée de Ludwig von Mises. Mais à un moment donné, dit-il, il va avoir cette intuition que le pouvoir, malgré tout, est un fait intemporel. Il y a toujours du pouvoir. On ne peut pas l'éradiquer, même dans une société anarcho-capitaliste, etc. Il y aura forcément toujours des rapports de pouvoir entre les hommes. Et il en est venu à cette idée que la politique libertarienne, en fait, n'a de sens que dans un ordre déjà institué. C'est-à-dire que les rapports pacifiés entre êtres humains, auxquels rêve tout libertarien, n'est possible que dans un ordre déjà sécurisé, déjà circonscrit. Donc, il a l'illusion de pouvoir se passer de cet ordre parce que l'ordre est déjà là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ordre est institué, on n'y pense plus. On se dit que c'est la manière normale des êtres humains à vivre ensemble. En fait, quand l'ordre n'est plus là, on se tape tous dessus, on s'attaque, on se vole, etc. Donc, il est contraint à repenser le pouvoir et à développer une grande critique de la démocratie. Curtis Yarvin a redécouvert des penseurs réactionnaires, Thomas Carlyle en particulier, Edmund Burke, etc. Et en fait, c'est ça qui est intéressant pour nous. Je ne sais pas vous si vous avez déjà fait l'expérience de lire Curtis Yarvin dans le texte, mais en ce qui me concerne, quand j'ai commencé, dans un premier temps, je me disais, mais que peut-il vraiment m'apporter? C'est-à-dire qu'il a l'air parfois, je lisais des textes de lui des années 2008-2009, et j'avais l'impression qu'il découvrait des choses qui me paraissaient totalement évidentes, ou qui, à mon avis, paraîtraient évidentes pour n'importe quel intellectuel européen de droite qui connaît déjà un peu des réflexions d'Edmund Burke ou de Joseph de Maistre, etc. Sauf que c'est un Américain du 21e siècle qui les découvre. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que chez nous, quand nous nous reportons à notre tradition réactionnaire classique, si je puis dire, c'est déjà une tradition un peu sclérosée. Sclérosée ou figée dans certaines formes. C'est-à-dire qu'on va lire Joseph de Maistre, et même si on peut trouver toutes sortes d'idées fascinantes chez Joseph de Maistre, il est amalgamé au combat réactionnaire du début du XIXe siècle qui vise la restauration. Ça, c'est quand même complètement dépassé pour nous. Il y a très peu de gens en France qui croient sincèrement au retour de, mettons, des Bourbons sur le trône de France, par exemple. Mais Curtis Yarvin, lui, découvre cela en étant vierge de toute cette tradition, si je puis dire. Donc, il peut directement penser les leçons politiques de certains de ses auteurs avec la situation de l'Amérique, de la social-démocratie en crise, etc. Et donc, ce retour par ces auteurs à quelque chose d'un peu rafraîchissant, je trouve. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et donc, oui, il y a parfois des éléments chez Curtis Yarvin qui pourraient nous paraître évidents, mais précisément par ce détour, il nous offre parfois des nouvelles formulations, comme celle de cathédrale, que je trouve assez pertinent, assez intéressant. Alors, je ne sais pas si on a le temps d'aborder
Allons-y.
Alors, un petit mot sur ce concept de cathédrale. Curtis Yarvin nous propose une petite expérience de pensée. Il nous propose d'imaginer trois types de sociétés, qu'il appelle très sobrement sociétés de type 1, type 2 et type 3. La société de type 1, ce serait un peu cet idéal libertarien, ou même plus que libertarien, l'idéal de Karl Popper, vous savez, la société ouverte, société entièrement pluraliste, intellectuelle. Chacun peut dire exactement ce qu'il veut, c'est la liberté intellectuelle qui règne, on a toutes sortes d'universités qui vont dans toutes les directions possibles et imaginables, etc. La société de type 3, ce serait résolument l'inverse, ce serait une société où la vérité, entre guillemets, est imposée par une autorité politique. Évidemment, la caricature, les systèmes totalitaires, hein, l'URSS, l'Allemagne nationale socialiste, avec un Joseph Goebbels qui dit aux cinéastes ce qu'il faut filmer, quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir, etc. Mais au fond, sans aller dans ces extrêmes, les sociétés, même féodales, auraient pu correspondre à cette société de type 3, société où la religion domine, il y a des vérités officielles et dogmatiques qu'on ne peut pas remettre en question. Bon, donc est-ce que, déjà avant de passer à la société type 2, notre société correspond-elle à l'une de ces deux sociétés, demande-t-il. Bon, la société de type 3, apparemment, quand même, non. Nous n'avons pas un pouvoir totalitaire, nous n'avons pas un Joseph Goebbels qui nous dit quoi penser, etc. Mais pouvons-nous dire pour autant que nous vivons dans une société de type 1? Et là encore, ça ne marche pas. Pourquoi ? Eh bien, il dit, parce que si nous vivions dans une société de type 1, il y aurait une plus grande liberté intellectuelle dans les universités. Le fait d'aller à Stanford ou à Harvard aurait un impact et des conséquences totalement différentes sur votre mode de pensée, sur votre cursus scolaire, etc. Or, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est une profonde uniformité de toutes les institutions universitaires et médiatiques, globalement. C'est-à-dire qu'il y a des différences, évidemment, mais ce sont surtout des différences de degré, globalement de degré dans le progressisme. Tel journal est plus ou moins à gauche que l'autre, telle université. Moi, j'ai fait mes études à Bruxelles pour mon bachelier à la faculté Saint-Louis, et puis j'ai fait mon master à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, et j'étais persuadé d'être dans une université de gauche quand j'étais à Saint-Louis. Et puis quand j'arrive à l'ULB, on me dit « Ah mais toi tu viens de Saint-Louis, c'est le bastion réactionnaire, c'est du catéchisme qu'on vous enseigne là-bas », alors que pas du tout. Mais voilà, l'institution paraissait moins à gauche que l'autre, alors qu'elle ne proposait pas du tout un discours intellectuel contraire. Il y avait simplement une petite différence de degré peut-être dans certains engagements, et encore. Donc nous ne vivons pas dans une société de type 1, et c'est donc en fait, nous vivons dans une société de type 2, une société où c'est la cathédrale qui dirige. La cathédrale, c'est le complexe médiatique, la cléricature intellectuelle d'une certaine manière. Mais alors, en quel sens dirige-t-elle? Normalement, nous vivons dans des démocraties. La démocratie semble avoir un gros avantage sur la dictature, puisque quand vous avez une dictature, vous avez un dictateur. Le dictateur, dans un premier temps, peut être extrêmement efficace. Il arrive au pouvoir, vous savez, un peu le dictateur romain, on lui donne une magistrature, il a un problème à régler, et comme il a tous les pouvoirs, il peut le régler. Mais s'il reste très longtemps au pouvoir, il peut se produire un effet d'isolation du dictateur. Il commence à s'enfermer de plus en plus dans sa tour d'ivoire, dans sa bulle, et on ne lui présente plus que des informations un peu frelatées pour lui complaire. Tous ces conseillers ne font pas vraiment remonter la bonne information au sommet pour rester dans les petits papiers du seigneur. Et donc, on peut dire que la démocratie, à cet égard, est infiniment supérieure, puisque la démocratie propose des feedbacks permanents. Vous avez des élections tous les 4 ans, les 5 ans, tous les 7 ans. Et donc, ça permet au pouvoir de mener une action pendant quelques années, et puis l'élection va sanctionner ou non toutes les décisions qui ont été prises, ça permet à la politique d'être toujours plus vertueuse. Or, dans les faits, nous dit Yarvin, le feedback est tout aussi faussé en démocratie. Parce que le vote n'est pas pur. Le vote n'est pas l'expression d'une simple information qui remonte. Le vote est façonné en amont par des institutions qui façonnent l'esprit des gens et qui met des balises, certains sujets ne peuvent pas être abordés, certaines choses sont impensables, etc. Et finalement, le pouvoir est tout aussi faussé il est aussi déconnecté de la réalité que dans une dictature, puisque ce qui lui remonte, ce n'est pas la voix réelle de la base, mais c'est le discours façonné dans ce petit vase clos, dans ce petit monde clos qu'est le monde des journaux, des universités, etc. Et qui va toujours plus à gauche, qui va toujours plus vers une forme de politiquement correct. Et c'est ça la base, en fait, de la néo-réaction. La néo-réaction, ils n'auront pas tous les mêmes solutions pour en sortir, mais tous les néo-réactionnaires sont en lutte contre la cathédrale.
Merci beaucoup, Antoine Dress, pour toutes ces présentations, à la fois de Carl Schmitt, de la révolution conservatrice allemande, de Curtis Yarvin. Merci beaucoup. Je rappelle donc à nos auditeurs votre chaîne Egonon. On trouve beaucoup de vidéos sur des penseurs plus ou moins connus, notamment les penseurs que nous avons abordés. Voilà des vidéos très bien conçues, très bien faites, qui nous donnent beaucoup à réfléchir. Merci beaucoup, Antoine Dress, pour cette belle émission. Et je souhaite à nos auditeurs une bonne journée. À bientôt.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Vous venez d'entendre Le Monde de la Philosophie, dirigé par Élie de Thoras, émission préenregistrée le 16 juin 2026 et diffusée pour la première fois le lundi 22 juin 2026 de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.